France Inter.
Stéphanie Janicot, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi écrivez-vous ?
Pour comprendre le monde, la vie, les autres, moi-même. J'ai sans doute l'illusion qu'en enfermant le monde dans une fiction, je vais l'apprivoiser, peut-être même le maîtriser.
Pour qui écrivez-vous ?
Pour tous ceux qui voudront se saisir du livre, pour tous ceux à qui l'histoire pourrait parler.
Si vous étiez un livre, quel en serait le titre ?
J'aime beaucoup le titre de Jean d'Ormesson. Je dirais malgré tout que cette vie fut belle.
Votre expression préférée de la langue française ?
L'espoir fait vivre.
Celle qui vous insupporte ?
Aucune, c'est plutôt les tics de langage qui m'insupportent et je m'en méfie beaucoup. Bah, par exemple, bah.
Du coup ?
Et du coup, parce que celui-là, il est très contaminant.
Romancière, autrice ou écrivaine ?
Romancière.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, etc. Lilia Hassen.
Bienvenue dans l'émission Etc. Cette semaine, on va s'intéresser à un genre qui fait parfois peur aux lecteurs. Et pourtant, parler d'une autre époque revient souvent à parler du présent. Que se passe-t-il aujourd'hui dans nos sociétés pour que des écrivains se penchent sur des ailleurs temporels ? L'anticipation, c'est le nom de ce genre littéraire, se déploie dans des futurs plus ou moins proches et rend compte de nos craintes au présent. La romancière Stéphanie Janicot, par exemple, apprivoise de livre en livre son angoisse du temps qui passe. Son dernier roman, Les Maîtres du Temps, nous fait voyager dans des époques où différents personnage tente de le maîtriser. Chaque épisode historique du passé, du présent et du futur illustre diverses manières de percevoir le temps, qu'il soit théologique, philosophique, scientifique ou qu'il devienne même une marchandise. C'est passionnant et extrêmement documenté. J'aurai le plaisir de recevoir aussi Benjamin Fogel, éditeur et auteur d'une trilogie sur une question qui m'obsède personnellement, la question de la transparence. Dans son dernier livre, L'absence selon Camille, il imagine qu'en 2060, notre passé sera constamment utilisé contre nous et que la vie privée sera réduite à néant. Cette fois, la marchandisation se trouve du côté des données personnelles. On n'en est pas très loin. Et dans ces mondes où tout s'achète et où tout se vend, nous parlerons aussi d'un très beau premier roman, La saison du silence de l'autrice belge Claire Matteau. Dans ce livre poétique, elle décrit une société qui ressemble à la nôtre, mais dans laquelle les individus n'ont plus de nom. Ils sont définis uniquement par leurs fonctions. Une société où le temps est cyclique, ritualisé, et où toute personne jugée inutile car trop vieille ou trop fragile se voit destituée et rejetée. Vous l'aurez compris, il sera question du temps dans cette émission et à travers le temps de ce que devient notre humanité dans un monde de plus en plus déshumanisé. Et tout au long de l'émission, nos libraires nous rejoindront pour leurs questions et conseils de lecture. Vous écoutez Etc, c'est parti.
Etc.
Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Claire Matteau, Benjamin Fogel et rebonjour Stéphanie Janicot. Alors vous écrivez tous les trois sur le temps. Avec vous, Stéphanie Janicot, on vit carrément un voyage temporel et je me suis demandé à quelle époque vous auriez aimé vivre.
Je pense au XXe siècle. En fait, j'aurais aimé une époque extrêmement courte qui se situe entre, on va dire, 1920 et 1934. Ces années folles, je les trouve fascinantes, drôles. Ce moment où finalement, tout le désespoir ressort d'une manière festive. Sinon, je crois que j'aime mon époque, même si elle est assez anxiogène.
Benjamin Fogel, vous, votre livre se passe en 2060, dans un état de surveillance généralisée. C'est le dernier tome d'une trilogie, ce qui dénote quand même une légère obsession. Pourquoi ce goût pour l'anticipation ?
Je crois qu'à travers l'anticipation, on essaye d'inventer des futurs possibles. Et ça, c'est peut-être la vraie nouveauté de l'anticipation, qui pendant longtemps, on cherchait plutôt à alerter nos contemporains sur les risques de l'avenir, en espérant peut-être faire changer la direction du monde.
Vous n'essayez pas d'alerter à travers vos livres ?
J'ai un peu l'impression que les dystopies d'hier sont un peu les utopies d'aujourd'hui. Des choses qu'on pouvait considérer comme très graves, comme des sociétés de contrôle, comme une perte des libertés et tout ça, paraissent finalement peut-être des futurs qui peuvent paraître enviables et donc utopistes par rapport les tournures qu'on peut voir que prend le monde au niveau des crises climatiques ou du technofascisme.
Et pourquoi 2060 d'ailleurs ?
Parce que en fait c'est un peu le même écart quand Orwell écrit 1984. Il y a un peu, on va dire, ces quatre décennies de projection dans le futur, et je voulais garder ces quatre décennies parce que ça vous permet d'avoir des personnages qui ont encore connu le monde d'avant. Donc vous avez à la fois des personnages qui ont connu le monde d'avant et à la fois des personnages, par exemple, trentenaires qui ont grandi dans le monde d'après. Et donc vous avez un peu ce choc des cultures que vous pouvez mettre en scène.
Claire Matteau, vous ne nommez pas de lieu
Non.
Ni d'époque, d'ailleurs. On sait qu'on est dans un village, dans une communauté, mais vous ne situez pas. Pourquoi ce choix ?
C'est le choix du conte philosophique ou de la parabole, on pourrait presque dire. L'avantage de situer ça dans un lieu qui n'est défini que par une initiale, dans un lieu qui est reculé. Je voulais vraiment me concentrer sur une petite communauté, sur les relations qui existent entre les personnages dans cette petite communauté, comme finalement un peu tous les romans où il y a un pan de huis clos. Ce qui est important, c'est de voir comment les personnages vont réagir à ce qui va se passer.
Et vous parliez de parabole. De quoi cette communauté est-elle la parabole ?
Elle est la parabole de l'oubli, du manque de transmission.
Ça, c'est quelque chose qui vous inquiète ?
Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui m'interpelle de plus en plus, que ce soit dans ma génération de trentenaires, de jeunes trentenaires, ou la génération qui vient après. On essaye. J'ai le sentiment que les enseignants, que les grands-parents, qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de transmettre. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que, peut-être, comme le montre Benjamin dans son roman, il y a vraiment des différences tellement fortes de vécu entre les générations que la transmission, elle devient très, très compliquée. Et ça, ça mène très, très vite à l'oubli. L'oubli, on y est vite en deux générations, trois générations, on y est.
Benjamin Fogel, vous parlez aussi de l'oubli. En fait, votre société dystopique, c'est aussi une société où on n'a pas le droit à l'oubli.
Oui, la question de la donnée et de comment on stocke des données, qui est devenu l'enjeu numéro un dans les entreprises. Aujourd'hui, les entreprises stockent des données sur leurs clients sans savoir quoi en faire. C'est-à-dire, collecter de la donnée est devenu le but numéro un avant de vendre des services, avant de réaliser des prestations. Et donc, est-ce qu'on est dans une lutte contre l'oubli ? Non, on est dans vraiment cette chose d'archiver la vie des gens pour mieux les connaître, pour mieux les suivre. Et donc, c'est assez marrant parce qu'en fait, on lutte contre l'oubli, mais en même temps, on se bat pour le droit à l'oubli. Pour avoir un peu ce droit d'effacer notre passé. Et je pense qu'il se joue quelque chose de très important sur cette question de l'oubli qu'on soutient et dont on a peur en même temps.
Ça aussi, c'est un point commun entre vos trois livres. Stéphanie Janicot, une société où l'oubli n'existe plus, c'est aussi quelque chose qui vous travaille.
La question de la mémoire est extrêmement importante pour moi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est ce qui fait notre rapport au temps, d'abord. Parce que si on n'a pas de mémoire, on n'a pas de conception du temps. On n'a pas le ressenti du temps. D'ailleurs, c'est tellement vrai qu'une des premières manifestations de la maladie d'Alzheimer, c'est d'avoir un rapport au temps qui devient problématique. Donc, c'est cette question de mémoire. Qu'est-ce qui se transmet ? Qu'est-ce qui rentre dans la formation de notre être ? C'est la mémoire de notre propre vie, celle de nos ascendants, comment on récupère la mémoire de nos parents ou de nos grands-parents, mais c'est celle aussi de toutes les théories, les scientifiques qui nous ont précédés. Et tout ça, pour moi, est essentiel. Et c'est ce qui va nous conduire vers un avenir plus ou moins brillant. Et évidemment, si la transmission ne se fait pas, comme vous le disiez, l'avenir sera plutôt obscur.
Et si l'oubli ne se fait pas, la mémoire aussi est en danger. À un moment, vous écrivez, alors je ne sais plus la phrase exacte, mais j'ai oublié d'oublier.
Oui, alors ça, c'est plutôt sur le chagrin. C'est-à-dire qu'en fait, la question du temps, j'ai compris en écrivant ce livre pourquoi elle m'avait autant obsédée, c'est qu'en fait, le temps, pour nous humains, agrège toutes nos émotions. Le passé va susciter éventuellement notre tristesse, notre nostalgie, le futur va mettre en marche notre imagination, notre excitation ou notre angoisse, et quant au présent, on est sommé de l'apprécier et d'en profiter, mais c'est quand même extrêmement difficile. Le carpe diem est ce qu'il y a de quand même de plus difficile. Donc, nos émotions sont très fortes concernant le temps. Et là, l'oubli dont je parlais, c'est celle qui accompagne notre tristesse, en fait. Parce que si on est hypermnésique concernant notre passé, concernant nos pertes, forcément, plus on avance dans le temps, et plus nous avons perdu de gens proches, nos parents, nos amis, des gens qu'on aimait. Donc forcément, si on y pense tout le temps, on devient extrêmement malheureux. Et une forme d'oubli est absolument nécessaire pour continuer à vivre avec une forme d'enthousiasme.
Stéphanie Janicot, Claire Matteau et Benjamin Fogel, vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques minutes pour parler de la manière dont le temps et le langage échappent ou n'échappent pas l'un à l'autre. Mais avant ça, on écoute Yoa, Princesse K.O.
Oh non, c'est pas vrai. J'ai un peu trop laissé parler la petite voix dans ma tête. Oh non, encore. Difficile de pas l'écouter quand elle te répète. Tu es de celles qui n'avancent pas au bon endroit, de celles qui trébuchent à chaque pas. assise au creux de l'ouragan, peu importe où je vais. Oh non, comment faire? J'ai, il me semble, un certain talent pour tout foutre en l'air. Je suis de celles qui recommenceront 10 fois avant d'apprendre à marcher 3. C'est toujours au cas au cas où que je sens mon cœur vibrer, mélanger mes rêves et ma réalité. Non, je n'ai pas peur, je vais tout abîmer, jouir de mes erreurs et tout recommencer. Me perdre, je ne peux l'éviter. Confondre, je t'aime et je suis désolée. J'attends les sirènes qui viendront me sauver, faire parler mes peines pour tout recommencer. Tout les sirènes pour tout recommencer. Je tends les sirènes. Je cherche la porte de sortie, loin du trou noir. Si le chaos t'envahit, qu'il est trop fort, ferme les yeux et souris encore et encore, encore et encore. C'est toujours au cas où
etc. Et nous sommes toujours en compagnie des romanciers Stéphanie Janicot, Claire Matteau et Benjamin Fogel. Stéphanie Janicot, il y a dans votre livre une citation qui résume tout et que j'aime beaucoup, c'est celle de Saint-Augustin qui dit « Qu'est-ce que le temps? Si personne ne me le demande, je le sais, mais si on me le demande, je ne le sais plus. » Alors je vous pose la question, pourquoi avoir voulu écrire sur le temps qui est par définition indéfinissable et indescriptible?
Bah justement pour essayer de le définir et de le décrire.
Et vous avez réussi?
Alors, pas complètement, évidemment. J'ai surtout, je pense, fini par renoncer à ces définitions, mais quand même, d'abord, ça faisait longtemps que j'avais envie de m'intéresser à la physique quantique. Je m'étais intéressée à l'astrophysique dans un autre roman, et je trouve ça fascinant, la physique. Et je me suis dit, bon, si j'arrive à faire quelque chose de physique avec le temps et essayer de le comprendre, ça m'a énormément plu. J'étais pas sûre que ça arriverait à faire un roman, mais je me suis dit, même si je n'y arrive pas, au moins j'aurais appris des choses. J'étais très intéressée par la manière dont les philosophes avaient parlé du temps, et évidemment, à commencer par Saint-Augustin, et je pourrais dire exactement la même chose que lui. Et donc, ça m'a aidée à cheminer de cette manière-là, mais évidemment que ma conclusion a été, finalement, tout ça sont des pistes vaines pour nous aider à vivre le temps, puisque finalement, ce qui nous heurte, c'est notre temps psychologique, c'est le temps émotionnel. Et peu importe qu'on comprenne ou qu'on ne le comprenne pas, on peut même dire le temps n'existe pas, ça ne change rien finalement à notre condition humaine.
Ça me fait penser à vous, Claire Matteau. Finalement, vous avez choisi le silence dans votre livre, comme si vous vouliez préserver, justement, laisser l'indicible à sa place.
Effectivement, les personnages, alors le silence certes, mais surtout, est-ce que vraiment les personnages arrivent à comprendre leurs propres sentiments, à identifier leurs propres sentiments? Parce que pour les exprimer, il faut d'abord les conscientiser. Et donc ce silence...
Et il faut aussi le langage pour les conscientiser.
Il faut aussi le langage, il faut aussi les mots pour le dire. Parce que parfois... On a mentionné 1984 tout à l'heure, parfois le langage change, le langage n'existe plus pour mentionner des concepts qui pourtant existent toujours.
Alors, il faut dire que dans votre livre, les mots disparaissent. Les gens, je l'ai dit tout à l'heure, n'ont plus de prénom. Chaque chose, chaque personne est ramenée à sa fonction, à son utilité,
à son métier.
Alors, je ne sais pas si je me trompe, mais votre roman, enfin, moi je l'ai vu comme une ode à la poésie. parce que justement, on voit en creux aussi tout ce qu'on perd, tout ce qu'on peut perdre.
On voit, donc le lecteur ou la lectrice voit tout ce qui est à risque, tout ce qu'on peut perdre, effectivement. Il y a certains personnages qui découvrent, qui grattent un tout petit peu, qui retrouvent des mots anciens, et qui retrouvent alors des mots anciens, mais qui trouvent aussi leurs propres mots. Il y a d'autres personnages qui se tâtent, le personnage de l'écrivain, qui n'écrit pas vraiment des œuvres de fiction comme nous aujourd'hui, mais qui tâte, qui tente, qui essaye.
Et alors moi j'ai adoré aussi votre titre. La saison du silence. Le mot saison a son importance. Parce qu'effectivement, on est dans un univers où tout est ritualisé.
Oui.
Quelle valeur a le temps dans votre roman ?
Dans le roman, le temps, il a presque disparu, en fait. Vu que tout est, comme vous le dites, hein, tout est ritualisé. C'est une société qui fonctionne sur les cycles, le cycle des quatre saisons, le cycle de la nature. Mais les personnages qui ne sont plus définis que par leur fonction ou leur métier, se remplacent aussi les uns les autres. Inès, ils vivent, mais sans vraiment avoir de rêve ou d'espoir ou de
développement. Tout est déjà tracé.
Tout est déjà tracé pour eux. Et puis, ils disparaissent dans ce cimetière, finalement, que même personne ne veut aller visiter. Donc, c'est un temps qui s'est figé. C'est un temps qui ne tient plus compte des vies.
Est-ce que l'angoisse du temps qui passe, Stéphanie Janico, est aussi une angoisse de mort ?
Alors, je ne sais pas si c'est une angoisse de mort. J'ai commencé à être prise de cette angoisse, j'en ai un souvenir extrêmement net, la veille de mes 5 ans, puisque j'ai 4 ans et je ne veux pas avoir 5 ans. Donc déjà, je trouve qu'avoir 5 ans, c'est être trop grand. Et je ne veux pas avancer.
Et pourquoi ?
Je ne peux pas le dire, je voulais rester petite. J'ai vécu l'adolescence très mal. Je n'aimais pas ces transformations, je voulais rester un enfant. J'aurais adoré être Peter Pan, mais et je n'ai jamais apprécié le temps qui passait. Et j'avais pourtant beaucoup de copines qui, elles, rêvaient d'avoir, oh là là, je me languis d'avoir 16 ans, d'avoir 20 ans, et moi pas du tout. Donc j'ai toujours eu peur du temps qui passait. Et après, j'ai un autre souvenir assez net, à 20 ans, de me dire, mais tout ce que j'ai dans la tête va disparaître. Je ne saurais pas l'exprimer, tout ça ne sert à rien et est voué à la disparition complète. Et donc, j'avais cette espèce d'angoisse de le temps m'est compté et je n'arriverai peut-être pas à faire ce que j'ai à faire.
Donc ça rejoint quand même l'angoisse de mort.
Ça rejoint l'angoisse du temps compté, parce qu'aujourd'hui, on pourrait dire je suis plus proche de la mort qu'il y a 40 ans, c'est clair. Mais j'ai beaucoup moins peur. Donc, c'est quand même lié à faire, le faire. Je me dis aujourd'hui, j'ai écrit la plupart des choses que je voulais écrire, il en reste certaines, mais j'ai quand même écrit, je dirais, les trois quarts de ce que je voulais écrire. Donc, je n'ai plus peur de la mort, parce que, imaginons que je meurs demain, j'ai peu de regrets par rapport à quand j'avais 20 ans.
Mais le temps vous angoisse moins ?
Le temps m'angoisse beaucoup moins.
Alors j'aimerais que vous nous lisiez un extrait de votre livre, un passage qui m'a beaucoup plu, car c'est là, à mon sens, que se loge le cœur de votre roman.
Le temps nous dévore au point de nous forcer à renoncer à l'idée même de réparation. Tout enfant blessé pense que tôt ou tard, il sera dédommagé des torts qu'il a subis. Plus grande a été sa perte, plus grande sera la réparation. La sagesse, l'expérience, appelez ça comme vous voulez, est de comprendre qu'aucune réparation n'est possible. C'est la fin de cet espoir qui nous portait naïvement vers un avenir que nous anticipions meilleur. J'ai cru par exemple qu'en offrant à mon fils la légèreté, son enfance serait joyeuse, que son bonheur réparerait mon affliction. Il n'en a rien été bien sûr, au contraire, il n'est pas armé pour l'adversité et ne cesse de se plaindre des coups du sort. On ne répare jamais rien.
On ne répare jamais rien, vous y croyez ?
Je ne sais pas, j'avais une amie qui était psychanalyste, une amie que j'aimais beaucoup, et j'avais parlé une fois avec elle de ce mécanisme de répétition dont on parle beaucoup en psychanalyse. Et elle me disait, en fait, ce n'est pas un mécanisme de répétition, mais de réparation. Et finalement, on est guéri quand on cesse de vouloir réparer. Et effectivement, on se plonge toujours dans la même situation, non pas parce qu'on est masochiste ou parce qu'on n'a pas compris, mais parce qu'on se dit, cette fois-ci, on va y arriver. Et donc, on va se confronter toujours au même problème pour se dire « je vais réparer ». Et effectivement, sans doute, il est salvateur, à un moment donné, de se dire « on ne réparera pas ». Et ça veut dire passer à autre chose.
Mais croire qu'il faut cesser d'espérer, vous écrivez la fin de l'espoir, c'est aussi une position assez pessimiste.
Et en fait, je ne savais pas que vous auriez choisi cet extrait, mais c'est intéressant de voir que l'expression française que j'ai choisie, c'est « l'espoir fait vivre ».
Oui, c'est
Et donc, est-ce que si l'espoir fait vivre, la fin de l'espoir, finalement, signifie ne plus vivre ? Alors après, il y a une autre expression qui est « tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ».
C'est ça, on peut le prendre dans les deux
on
sens.
On peut le prendre dans les deux sens.
C'est comme le temps, c'est de l'argent, et voilà. L'argent, c'est
Et donc, je ne saurais que vous dire. Je pense qu'arrivé à un certain âge, je ne dis pas qu'on perd les espoirs, mais on perd beaucoup d'illusions, et il faut changer de paradigme. Et sans doute que c'est un moment extrêmement intéressant dans la vie, de se dire ce que j'espérais peut-être n'est pas advenu, alors il faut aimer la vie en soi, et non pas la vie pour l'histoire et l'espoir qu'elle comporte.
Alors vous me faites une transition parfaite avec Bergson, pour qui le temps est hétérogène. La frise chronologique qu'on apprend à l'école n'a aucun sens. Et je voulais savoir si en écrivant ce livre, vous aviez cherché vous aussi à maîtriser le temps.
Ah, bien sûr. Je pense que d'ailleurs le titre le dit complètement, parce qu'aucun de ces personnages n'est maître du temps, en vérité. Depuis Newton, qui a évidemment cherché à enfermer dans son four d'alchimiste la création du monde pour comprendre, et qui est le premier à avoir donné une définition du temps, il est immuable, universel, jusqu'à dans le futur. Ces gens où je voulais illustrer cette idée, le temps c'est de l'argent. Et c'est pour ça que j'ai eu besoin d'aller voir très loin un moment où le temps serait suffisamment maîtrisé pour qu'on le coupe, on le saucissonne et qu'on puisse le vendre ou l'échanger. Mais néanmoins, personne finalement n'est parvenu à maîtriser le temps pour l'étendre, le raccourcir, aller dans le passé. Aller dans le passé semble, de tout ce que j'ai lu, rigoureusement impossible. En revanche, il est ouvert, cette possibilité que nous pourrions aller dans le futur, par ces trous de verre, mais la flèche du temps, je l'ai respectée quand même. C'est-à-dire que j'ai quand même, même si c'est un roman de fiction, et, voire de science-fiction à certains endroits, j'ai essayé de respecter beaucoup de données en fait, physiques, pour que ça puisse...
Mais vous auriez pu structurer le livre autrement, c'est-à-dire que là, les parties, c'est passé, présent, futur, c'était une évidence de le structurer comme ça ?
Oui, évidemment, je pars de Newton et j'arrive dans 250 ans, donc ça embrasse quand même trois... forcément, ça va dans ce sens-là, puisque je respecte la flèche du temps. Bien sûr, il y a des chapitres qui s'emboîtent, etc. Quand même, globalement, on va... le temps est charrié dans une seule direction.
Mais en travaillant sur la question du temps, donc vous avez travaillé sur le temps philosophique, le temps théologique, toutes ces personnes qui ont essayé de maîtriser le temps dans un univers particulier, dans un domaine particulier, vous, en écrivant, vous rassemblez tout, donc quelque part, vous le maîtrisez encore mieux.
En tous les cas, je maîtrise mon questionnement du temps. Et d'ailleurs, je pense que c'est finalement ce qu'on fait en tant qu'écrivain, romancier, parce que j'ai dit romancière tout à l'heure. Moi, j'écris en tout cas à partir de questions que je me pose. J'ai besoin d'essayer d'obtenir des réponses. Je ne les obtiens jamais complètement, mais en tous les cas, j'affine beaucoup mes questions. Et le roman me permet de mieux comprendre ce que je recherche, de mieux comprendre ce qui me pose problème, de commencer à apprivoiser les choses. En fait, je pense que j'ai un tempérament secondaire qui fait que je n'arrive à comprendre les choses, à les percevoir, à les apprivoiser que si je les ai transformées en fiction et si je les ai écrites.
Benjamin Fogel, vous êtes pareil ?
Je pense que je suis exactement pareil. À chaque fois, moi, que j'ai un problème, une question qui est un peu insoluble chez moi, et c'était le cas avec ma trilogie, avec la question de l'anonymat, de savoir si j'étais pour ou contre l'anonymat. Pendant très longtemps, j'avais été excessivement pour parce que ça faisait partie des fondements d'Internet. Et puis après, tout ce qui s'est passé avec des campagnes de harcèlement, avec l'outil politique qui sont devenus les réseaux sociaux, je me suis beaucoup questionné sur le fait que peut-être que l'anonymat était quelque chose de dangereux. Et je n'arrivais pas à répondre à cette question et j'ai voulu, à travers la fiction, me dire essayons de dérouler le fil à travers des personnages, à travers une histoire politique de la France et de la France de demain, et de voir où ça nous mène.
Et bon, alors et vous y voyez plus clair ou pas ?
Et voilà, la mauvaise nouvelle, c'est qu'après 7 ans consacrés au sujet et 3 romans, je ne suis pas tellement plus avancé. Je pense que l'anonymat, c'est en fait un outil et que parfois les hommes l'utilisent à bon escient et parfois à très mauvais escient. Et que c'est plus un outil qu'un concept philosophique qui est bon ou mauvais.
Le temps n'apaise pas grand-chose car pour la mémoire, le temps n'existe pas. Certains événements de la semaine passée sont déjà oubliés. Ils paraissent si loin lorsque je tente de les faire remonter à la surface. À l'inverse, je revois mes parents comme si je les avais quittés hier. Et je voulais vous poser cette question, Stéphanie Janigaud. Est-ce que vous êtes nostalgique ?
Je pense que j'ai passé ma vie à lutter contre la nostalgie. Sans doute, j'étais un enfant nostalgique et il m'est apparu, je pense, assez net vers l'âge de 11-12 ans que si j'allais vers ma pente naturelle, j'aurais une vie extrêmement triste et je serais toujours extrêmement triste. Et j'ai essayé de ne jamais regarder en arrière. Écrire m'a aidé beaucoup. Enfin, là où je me dis que finalement, la grande angoissée que j'étais a quand même finalement réussi à faire quelque chose de toute cette angoisse. En construisant un peu à peu un travail un peu cohérent. C'est sans doute, en tous les cas, la plus grande victoire que je peux avoir sur cette forme de nostalgie ou de tristesse. Elle m'a évidemment rattrapée sur le tard, c'est-à-dire que j'ai réussi quand même, je dirais, jusqu'à la mort de ma mère, en fait, à être dans la projection, à aller vers l'avant. Et puis, à un moment donné, oui, il a bien fallu que je... En plus, c'est arrivé après le deuil de deux amis extrêmement proches, donc qui, avaient pour le coup, étaient beaucoup plus proches de moi en âge. Et là, effectivement, il y a eu quelque chose de l'ordre de... Mais mon monde est en train de se dépeupler. Et je peux progressivement reprendre le dessus sur ça. Mais c'est sans doute, ça a été sans doute décisif dans le fait, à un moment donné, de vouloir écrire sur le temps. Mais je pense que si j'ai réussi à emprisonner dans 300 pages, c'est-à-dire très court, tous ces concepts du temps, c'est que je les ai travaillés sur 30 livres, en fait. C'est que il y a toute la mémoire du monde derrière, qui était quand même sur 1800 pages. Il y avait Newland qui parlait de l'avenir. Donc, je dirais que j'ai mis dans ce court roman, finalement, mes obsessions de toujours, qui avaient été développées et largement travaillées et retravaillées au cours de ma vie, finalement.
Benjamin Fogel, Stéphanie Janicot et Claire Matteau, dans quelques instants, on entrera dans vos ateliers d'écriture à tous les trois et on parlera d'un de vos points communs, la critique que vous faites chacun à votre manière de l'ultra-capitalisme.
Avec le temps, va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps, va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps, va, tout s'en va. Même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ses gueules. À la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort. Le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps, va, tout s'en va. L'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien, l'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux, pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps, va, tout va bien. Avec le temps, va, tout s'en va. on oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens. Ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, on n'aime plus.
Vous écoutez Etc, c'était Léo Ferré avec Le Temps et nous sommes toujours en compagnie de l'auteur d'anticipation Benjamin Fogel et des romancières Stéphanie Janicot et Claire Matteau. C'est l'heure de l'atelier d'écriture.
France Inter, Radio-Canada, RTS La Première, RTBF La Première, Etc, Lilia Hassen.
Bon, Claire Matteau, on va se le dire tout de suite, votre premier roman est gonflé. C'est un roman d'imagination. Vous n'aviez rien à dire sur vous, sur vos petits problèmes personnels?
Alors peut-être parce que, à la vérité, ce n'est pas du tout le premier roman que j'ai écrit. C'est mon premier roman publié, mais j'écris depuis toujours. En fait, j'ai écrit ma première histoire à 6 ans. J'ai appris à écrire à 6 ans et j'ai écrit ma première histoire dans la foulée. Donc, je pense que les romans avec mes petits problèmes, comme vous dites,
sont déjà derrière vous.
Ce sont les romans que j'ai écrits à l'adolescence, qui sont cachés sur mon ordinateur, que j'aime vraiment beaucoup, pour qui j'ai beaucoup de tendresse, mais qui ne sortiront pas pour le public, je crois.
Stéphanie Janicot, vous lisez beaucoup. Est-ce que lire, c'est, je reprends une expression de votre livre, avaler la mémoire?
C'est avaler la mémoire de tout le monde, la mémoire des autres, la mémoire collective. Il y a une façon d'essayer de vivre toutes les vies par la lecture. Déjà, par l'écriture, on vit plusieurs vies, mais j'en vivrai au maximum 40 ou 50 dans ma vie.
C'est pour ça que vous écrivez sur le temps, finalement. C'est que vous avez beaucoup plus de temps que tout le monde.
Je ne sais pas si j'ai beaucoup de temps.
Parce Grâce au livre.
Parce que lire prend beaucoup, beaucoup de temps et le travail prend beaucoup de temps. Mais
on gagne beaucoup de temps aussi en lisant.
On gagne beaucoup d'expériences, les expériences des autres. Et puis, c'est vrai que souvent, on lit et on se dit « Ah, c'est incroyable, j'aurais aimé trouver cette phrase » ou « c'est tellement bien dit, c'est tellement ça ». Et donc, ça nous fait forcément évoluer. La lecture, moi, j'ai adoré me plonger dans les univers créés de toutes pièces de Claire et de Benjamin. Je trouve que c'est toujours fascinant de découvrir des univers entièrement créés. Et d'ailleurs, peut-être qu'on en parlera, mais ça demande à l'écrivain des questionnements d'écriture supplémentaires par rapport à lorsqu'on écrit sur le monde contemporain.
Bah c'est parfait, puisque j'avais une question pour Benjamin Fogel. Vous avez écrit une trilogie dont le dernier tome est L'absence selon Camille. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on se lance dans un roman d'anticipation?
C'est d'anticiper les évolutions qui vont se produire, le temps de l'écriture. Quand vous écrivez une trilogie, ça dure entre 5 et 10 ans. Et les partis pris que vous avez quand vous commencez à écrire, la société va changer, la politique va changer. On est en plus
ça change très vite en plus.
Une période où tout s'accélère. Des visions que vous sentiez au départ vont évoluer. Donc il y a des choses il faut garder telles quelles parce que je pense que c'est important de porter sa voix. Et d'autres qu'il faut réadapter en cours d'écriture. Typiquement dans la trilogie, un des cœurs du sujet effectivement, c'est la question de l'ultra-capitalisme. À travers la collecte des données et l'exploitation des données et le contrôle. Et ce sujet qui était central il y a 3 ans, en fait, s'est fait complètement dévorer par la forme ultra-libérale du capitalisme qui, finalement, a envie de passer outre la donnée et a provoqué un chaos absolu dans lequel il n'y aura plus aucune limite.
Ce que vous dites, c'est qu'on s'est habitué, finalement, à donner nos informations.
Ah bah complètement. C'est-à-dire que, en fait, moi, mon postulat de départ, hein, c'était de dire que bientôt, les États allaient être gouvernés comme les entreprises. Et donc, je m'étais imaginé que les États allait fonctionner pareil, et donc que pour avoir ce fonctionnement, il fallait capitaliser un maximum de données sur les citoyens pour savoir ce qu'ils font, ce qu'ils consomment, leur consommation énergétique, leurs liens sociaux, leurs dépenses. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on a dépassé ça. On donne cette donnée.
Donnée, elle n'est pas gratuite.
Cette donnée, elle n'est pas gratuite. Je pense qu'on la donne gratuitement quand même.
On la donne gratuitement, mais elle est.
Après, alors.
Elle est vendue.
Elle est vendue, mais en fait, cette question où on se disait de monétiser les données des gens, j'ai l'impression qu'on est déjà dans le coup d'après. Et j'ai presque l'impression que ce qui est dur, c'est qu'il y a un moment, on pouvait se dire qu'on allait utiliser les données des gens pour prendre des bonnes décisions. Et en fait, là, non seulement on collecte des données pour prendre des décisions qui ont l'air inverses aux données qu'on a collectées, mais plus que ça, on se dit, ah mais en fait, on a collecté toutes ces données, mais au niveau étatique, mais finalement, en fait, on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est prendre des décisions pour nous, pour soutenir l'ultralibéralisme, c'est ce qu'on voit aux États-Unis.
Mais les données, on a l'impression qu'elles ne servent que dans des objectifs publicitaires ou économiques.
Oui, et c'est-à-dire, alors que, la logique de la donnée, si on la prend, si on sort d'un contexte politique, c'est de pouvoir dire, j'ai les bons indicateurs pour pouvoir proposer les meilleures lois, les meilleurs dispositifs pour accompagner les citoyens et les citoyennes.
Oui, parce que même la donnée médicale aujourd'hui, elle est possible pour des gens qui ont certains revenus, enfin pour certaines classes sociales. Est-ce que, elle permet le développement de recherche, mais aujourd'hui, si vous avez besoin de faire un check-up très précis, il faut avoir beaucoup d'argent.
Alors ça, la question de la donnée médicale est quasiment un sous-sujet de la donnée, qui est vraiment très passionnant, parce que s'il y a bien un sujet où la donnée a du sens, c'est celui-là, parce que plus on capitalise de données sur les maladies, et plus on peut savoir que telle personne qui a eu un cancer avait aussi tel autre facteur, telle condition de vie, et que parmi les traitements, il y a ça qui a fonctionné, et que si vous avez un cas qui est similaire au vôtre, à l'autre bout de la planète, que c'est dans une base de données, et qu'on peut savoir que tel traitement, chez telle personne qui vous ressemblez, a fonctionné, on peut l'appliquer. Donc ça, c'est un très bon exemple de pourquoi la donnée peut être utile. Sauf que, effectivement, aujourd'hui, pour avoir accès à tout ça, c'est pas quelque chose qui est égalitaire, quoi.
Oui, c'est ça.
Et de toute façon, la donnée, qu'on vous la vole, que vous la donniez, qu'on l'utilise ou pas, il y a une question d'équité. Et aujourd'hui, il n'y a pas un système de la donnée. C'est un peu ce que moi j'imagine justement un monde où il y a un traitement égal entre les personnes.
Et comment vous travaillez? Est-ce que vous faites un plan? Est-ce que comment vous écrivez concrètement?
Alors moi, je suis très attaché à l'idée qu'il faut que la méthodologie de travail s'adapte au sujet. Et donc, on doit avoir une méthodologie de travail qui corresponde à son sujet. Donc moi, là, j'ai fait une trilogie sur l'identité, la donnée. Donc j'ai travaillé avec un plan sur tableau Excel,
c'est ça.
Avec des petites cases, et avec la mise en place de structures, de systèmes. Et dans mon plan, il y avait une ligne politique, une ligne sociologique, une ligne sur la question de l'identité, une ligne sur des questions philosophiques. Et en fait, à chaque fois, je m'assurais que chaque plan de la structure du monde allait évoluer au fil de la trilogie et d'être cohérent.
Oui, c'est,
et donc c'est
ouais. C'est sérieux. Chez vous, Stéphanie Janico, l'avenir se dessine en une phrase, puisqu'on parle d'ultra-capitalisme. Le temps, c'est de l'argent. Parcourez le monde, rapportez-moi du temps, vous ne manquerez plus jamais d'argent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Alors, évidemment, c'est ce que je voulais explorer, c'était ce côté le temps, c'est de l'argent, et si on pouvait en faire une donnée marchande, qu'est-ce qui se passerait? Mais c'était aussi, pour moi, une manière de parler du temps perdu, enfin. Parce que si on pouvait vendre le temps, l'acheter, qu'est-ce qu'on ferait? Et je pense à tous ces moments où on s'est dit « Ah, vivement !» Vivement dimanche, vivement la semaine prochaine, vivement que je fasse ceci ou cela, et où finalement les moments qu'on vit dans l'interstice sont des moments
où on ne vit pas,
où on ne vit pas suffisamment, où on ne profite pas. Et donc si on regarde tous ces moments mis bout à bout, on a perdu beaucoup de temps à anticiper d'autres moments. Et donc, en fait, c'était une métaphore de ça. Et c'est vrai que dans ce livre, il y a beaucoup de métaphores. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi un personnage d'écrivain qui écrit toujours le même livre, parce qu'on dit toujours aux écrivains, vous écrivez toujours le même livre. Donc, elle, clairement, elle a perdu son père dans les Bermudes quand elle avait 8 ans.
Bermuda.
Et elle écrit un livre qui s'appelle Bermuda. Donc, Bermuda 1, Bermuda 2. Et au moment où ça commence, on est à Bermuda 40. Bon, c'est une manière, en fait, marrante, parce que j'aime assez regarder aussi, quand même, avec un fond de distance. Et finalement, l'humour, on parlait de la tristesse tout à l'heure et de la nostalgie, mais quand même, il y a une manière de surmonter tout ça et de surmonter nos vies et la condition humaine, c'est quand même l'humour. Parce que quand on regarde ce qui se passe, on a matière évidemment à être anxieux, mais quand même, c'est tellement énorme, parfois on pourrait quand même en rire aussi. Tellement il nous arrive des choses absolument incroyables, grotesques. Et je pense que ça, c'est une chose qui m'a été transmise dans ma famille, parce que mon père avait été envoyé en Allemagne pendant la guerre, ma mère avait dû disparaître parce que sa famille était juive et poursuivie. Et donc, c'était quand même... Ils avaient eu des existences pas faciles dans leur jeunesse, mais ils savaient me raconter que les moments rigolos. Ma mère racontait de son exil que des moments assez marrants quand ils ont traversé les Pyrénées à pied, et puis finalement ils se sont retrouvés au matin à Saint-Jean-Pied-de-Port parce qu'ils avaient raté l'embranchement. Bon. Et donc, moi j'étais partie dans l'idée que tout ça était très marrant. Donc, je trouve que cette manière d'être capable de raconter en fait des enfances ou des jeunesses fracassées en faisant rire ses propres enfants et en leur transmettant quelque chose de l'ordre de la distanciation, ils m'ont beaucoup apporté pour ça.
On revient toujours à la narration avec vous, Stéphanie.
Bien sûr, la narration, de toute façon, qu'est-ce qui compte ? Est-ce que c'est le réel ou est-ce que c'est la manière dont on se raconte le réel ? Et finalement, c'est le regard qu'on va porter sur ce qui nous arrive qui va être important. Si vous arrivez à en tirer un fond d'humour, vous allez réussir à rire de ce qui vous arrive. Si vous le regardez de manière triste et dramatique, forcément, ce sera triste et dramatique.
Stéphanie Janicot, Benjamin Fogel, on se retrouve dans quelques instants pour parler plus en détail du premier roman de Claire Matteau. Et nos libraires seront avec nous pour leurs questions et conseils de lecture.
Parti du monde des vivants. D'autres fêtes m'attendent plus loin des tables et des gants blancs. Les visages des gens, même ceux que j'aimais, n'ont plus de sens ici. C'est l'immense nuit.
Bienvenue ou re-bienvenue dans l'émission, etc. C'était François and the Atlas Mountain, partie. Nous sommes toujours en compagnie de Stéphanie Janicot, Benjamin Fogel et de la prime romancière Claire Matteau. On accueille tout de suite nos libraires.
Etc. Lilia Hassen.
Et direction la Suisse, à Saint-Ursanne, où Fedra Hautmann de la librairie Café Le Vent se lève a lu votre livre, Claire Matteau. Bonjour Fedra.
Bonjour.
Alors vous avez été emballé par ce premier roman.
Oui, j'ai été emballée par ce premier roman publié, apparemment, parce qu'il y en a eu d'autres, de Claire Matteau. Et puis j'espère honnêtement qu'il y en aura d'autres, parce que j'ai été transportée et surprise par ce singulier roman. J'ai aimé cette idée particulière d'un village qui n'a pas de nom, mais seulement une simple lettre, le C, où l'identité, le nom et le prénom si essentiels à notre humanité disparaissent au profit du métier que les gens exercent. J'ai été aussi troublée par ce qu'a appelé la destitution qui rôde et menace tous les villageois. En quelques mots, la destitution, c'est un combat à mort, sanglant et terrible, mais on peut aussi choisir de ne pas se battre et accepter d'être destitué. Pour certains, cette option conduit tout de même à la mort, comme pour l'ancien aventurier, défié par un inconnu qui l'est pas vraiment, en fait, mais j'y reviendrai. C'est noir, glaçant et terrifiant à la fois.
Claire Matteau, noir, glaçant, terrifiant, ça vous va ?
Il est glaçant, ça c'est sûr. Il est glaçant dans le propos, il est glaçant dans la saison. Ce monde est glaçant, personne, aucun d'entre nous, aucune d'entre nous n'aurait envie d'y vivre. Il est terrifiant. Alors peut-être pour nous, lecteurs et lectrices, pour les personnes qui vivent dans cette communauté, ce monde n'est pas terrifiant. Ce monde, c'est l'habitude, ce monde, c'est la routine. Même pour les personnes à qui ça ne convient pas, cette situation, qui souhaitent quitter cette communauté, ou en tout cas savoir si c'est pareil ailleurs, ce monde n'est pas terrifiant. Ce monde est de trop, ou de trop dans sa violence, effectivement, ou n'est pas assez dans le langage, dans les sentiments.
Dans la chaleur.
Dans la chaleur, dans ce qu'on peut y trouver. Alors oui, les personnages sont terrifiés par la destitution. Fédra en a parlé, qui est une menace de mort, une espèce d'épée de Damoclès qui pèse sur tout le monde. Mais je pense qu'il y a aussi de l'espoir que cette communauté elle puisse changer pour certains personnages.
Oui, c'est vrai qu'il y a de l'espoir, notamment à la fin. Et ce que vous avez aimé, Fédra, c'est aussi la galerie de personnages qui habitent cet étrange village.
Oui, oui. Et puis je parlerai de l'espoir après aussi. Mais effectivement, le lecteur va donc s'arrêter sur plusieurs personnages. L'écrivain, qui est plein de rancœur. L'aventurier, celui qui revient après des nombreuses années. La jeune serveuse et le fossoyeur qui ont soif d'apprendre. Moi, j'ai été particulièrement touchée et attirée par ce nouvel arrivant mystérieux qui défie donc l'aventurier et qui, en fait, est un ancien habitant du village ayant décidé de le fuir il y a très, très longtemps avec la promesse de l'écrivain, d'où sa rancœur. Mais en fait, pourquoi il a choisi de revenir ? Quelles sont ses intentions ? Moi, j'aime qu'il soit revenu et surtout qu'il enseigne aux plus jeunes, l'ancien langage, qui nous laisse justement entrevoir cet espoir et une autre vie possible ailleurs. Et puis j'aime aussi qu'il ait plein d'histoires de peur et de liberté à raconter. Ça doit être mon côté libraire. Mais la peur est partout quand même. Mais comme je le disais, l'espoir, il est là. On sent que quelque chose va arriver. Et en tout cas, on l'espère. En tout cas, moi, je l'ai espéré. J'ai trouvé l'écriture très poétique, épurée et sensible. J'ai trouvé aussi qu'il y avait de la douceur, malgré la rudesse. Je le résumerais un peu comme ça, comme une fable ou un conte sur l'absence de communication et la peur, mais avec toujours cette tentation fragile de l'appel à la liberté.
Et vous aviez une question à poser à Claire Matteau, Fédra.
Oui, Claire Matteau, je voulais savoir, pour vous, quoi, quelle est la place de la peur dans votre vie ?
Alors, dans la peur, il y a plusieurs composantes. L'anxiété. L'anxiété, ça, je pense qu'elle est présente, comme toutes et tous. On en a beaucoup déjà parlé dans cette émission. L'anxiété par rapport au futur, notamment par rapport au risque de catastrophe écologique vers lesquelles on court, au risque lié à nos démocraties, comme Benjamin en a parlé. Donc ça, c'est une anxiété qui est existante. Maintenant, personnellement, comme vous posez la question dans ma vie, moi, la peur, je la combats déjà en écrivant, parce que pour moi, c'est une façon de résister, de faire passer les thématiques qui m'intéressent, de les communiquer au plus grand nombre. Et puis, je les combats aussi, justement, par la transmission, alors je suis romancière certes, mais j'ai un autre métier à côté et qui passe par l'éducation. Dans ce métier, je vais dans des écoles, je travaille avec des jeunes. Ça paraît peut-être bateau quand on l'entend. Pour tous les enseignants, pour toutes les enseignantes qui écoutent, je sais qu'on ressent toutes et tous la même chose. Travailler avec des jeunes et faire justement ce travail d'esprit critique, de communication, de transmission de la mémoire, de sensibilisation à la force des réseaux sociaux, des data, hein, comme Benjamin le mentionnait tantôt. C'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose qui permet de combattre une certaine anxiété.
Merci Fedra. Pour clore cette émission autour du temps, je vous invite à voyager dans l'histoire avec notre libraire belge Aurélie Vergieux de la librairie Molière à Charleroi. Bonjour Aurélie.
Bonjour Lydia.
Aujourd'hui, pour votre conseil de lecture, vous nous emmenez en pleine guerre de 14 avec un livre qui vient de sortir, La cuisinière du Kaiser d'Armel Job.
Oui, et merci d'ailleurs de me donner l'occasion de parler de lui. Donc Armel Job est l'un de nos grands auteurs belges. Il a rédigé une vingtaine de romans aux éditions Robert Laffont. Et j'ai beaucoup aimé son dernier roman, La cuisinière du Kaiser, qui est paru donc la semaine dernière. C'est probablement aussi le plus personnel qu'il ait écrit à ce jour, puisque né en 1948, il y explore son passé familial dans les Ardennes belges de la fin du 19e siècle et du début du 20e, à une époque où l'Europe plonge dans la Première Guerre mondiale. Et donc, c'est avec un style délicieusement désuet qu'il nous plonge dans un monde disparu où on croise des métiers qu'on ne connaît plus, des charretiers, des faneurs ou des chauliers, donc les chauliers qui travaillent la chaux. Et au détour de l'un de ces paysages campagnards, on rencontre Magda, qui est son arrière-grand-mère, qui s'est mariée avec Victor en 1885 et qui a fondé avec lui le Grand Hôtel des Ardennes et une famille de 8 enfants. Et à l'été 1914, le cauchemar de la guerre pourtant frappe le village dans une Belgique qui était neutre. Les Allemands incendient l'hôtel et tuent ce que Magda a de plus précieux, son fils qui avait 14 ans. Et c'est ici, à ce moment-là du récit, que l'auteur laisse place à la fiction, en imaginant que Magda se lance dans une quête effrénée, au plus proche des hommes qu'elle juge responsables de la mort de son fils, jusqu'au Kaiser Guillaume II, dont elle essayera de devenir la cuisinière, d'où le titre, pour tenter d'appréhender l'origine du mal.
Et qu'est-ce qui vous a plu à vous dans ce roman ?
Alors moi, j'ai été particulièrement sensible à la voix de cette mère à laquelle un enfant a été arraché. C'est un livre vraiment bouleversant et nécessaire, je crois, que je conseille à tous parce qu'il nous plonge dans l'intimité de ceux qui ont vécu ou qui vivent encore aujourd'hui l'absurdité de la guerre et qui fait écho à l'horreur des guerres qui nous entourent.
Merci Aurélie, vous m'avez donné envie de découvrir ce roman, La cuisinière du Kaiser, donc, qui vient de sortir chez Robert Laffont. L'auteur s'appelle Armel Job. Et c'est la fin de cette émission. On recommande Les Maîtres du Temps chez Albin Michel, une exploration passionnante de la question du temps et de la mémoire à travers les âges. Merci Stéphanie Janicot d'avoir été avec nous.
Merci.
Et je recommande également les romans de Benjamin Fogel et Claire Matteau, la trilogie de Benjamin Fogel, toute la trilogie, si vous aimez l'anticipation ou les polars. C'est extrêmement bien construit et c'est aux éditions Rivage. Et enfin, un gros coup de cœur pour le premier roman de Claire Matteau, une fable sublime sur la disparition du langage. Merci aussi à nos libraires du jour, Fedra Hautman et Aurélie Vergieux. Je rappelle qu'Etc. est une émission France Inter en coproduction avec les médias francophones publics. Merci enfin à mon équipe, Lilian Allôme à la réalisation, Pauline Laverdure à la technique, Estelle Gab, Virginie Rouzic et Manon Grandière. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.